instance, lorsque Édom va apparaître, et que ce Édom qui ressemble le plus à Adam, et il va prendre le symbole de l'homme comme étant son drapeau, puisqu'il va adorer la figure de l'homme. Et c'est ça. Dans l'équipe sur Mitzvah, qui est essentiellement la différence entre la pensée du Mitzvah et la pensée du Mitzvah, c'est simplement un petit coup de projecteur sur ce sujet qui mérite d'être étudié pendant une année entière, puisque aujourd'hui, je vais dire un peu plus en détail, aujourd'hui, on découvre, grâce aux écoles ethnologiques contemporaines, linguistiques aussi, et surtout grâce aux efforts de Lévi-Strauss, qui avait été annoncé par des précurseurs, mais je crois que c'est au nom de Lévi-Strauss que sera attachée cette découverte, que la pensée mythique est une pensée pleine d'elle-même, qu'elle est pleine d'un, comme disait déjà Paul Ricoeur, le mythe donne la pensée, mais c'est surtout Lévi-Strauss qui l'a montré dans la grammaire des mythes, dans l'exégèse des mythes. Et alors il y a une certaine tendance dans les milieux qui s'occupent de judaïsme de voir dans le Midrash et dans sa source, et dans la source du Midrash, dans le Midrash lui-même, de voir quelque chose de l'ordre du mythe. Vous voyez l'importance et la gravité du problème, c'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de commencer une mise au point de cet ordre, que l'intention du Midrash et l'intention du mythe ne sont pas du tout la même. Et j'aurais à prendre comme illustration les Midrashim, certains, peut-être un, on n'aura pas beaucoup de temps, les Midrashim qui parlent de la naissance de Moïse et le mythe fondateur du christianisme, dans le récit de la Passion, dans les évangiles, pour bien montrer que d'un côté, il y a une tendance, enfin plus qu'une tendance, il y a une option d'ordre mythique, je parle du récit de la Passion, en tant que mythe fondateur de la conscience chrétienne, je ne dirais pas de l'identité chrétienne, puisque l'identité chrétienne est une affaire de croyance et non pas d'existence, d'identité. Est-ce que vous voulez que j'explique plus ou c'est nécessaire? Enfin, je parlerai de cela dimanche. Il y a une identité d'Israël, une identité juive dans la réalité de l'histoire, et il y a un phénomène de conscience qui est le mythe chrétien. Du point de vue de son identité, un chrétien est ou européen, ou asiatique, ou africain, ou s'il est européen, ou français, ou anglais, ou italien, ou espagnol, ou scandinave. C'est son identité à proprement parler, elle est judéo-chrétienne. Et je veux dire, elle est judéo-goy. Elle est judéo- quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre qui est dans l'histoire, c'est vraiment une identité réelle. Il est français ou anglais. Alors que l'identité chrétienne en tant que telle n'existe pas. Il y a un phénomène de conscience chrétienne. Il n'y a pas une identité chrétienne comme il y a une identité juive dans l'histoire. L'identité juive est un fait d'existence historique. Existence comme fait historique. Alors l'identité chrétienne est un épiphénomène de civilisation judéo-autre chose. Et ça commence d'une certaine manière à Babel à sa manière, à Paras à sa manière, mais surtout à Yavan à sa manière, et j'aurais à parler de cela. Ceci dit, pour essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas par hasard que Édom va prendre la figure du Adam comme son drapeau. Il y a la prétention à être le Adam véritable. Vous connaissez l'expression des évangiles, ecce homo, comment vous prononcez, ecce homo, c'est lui l'homme. Vous voyez, c'est pas par hasard qu'on va chercher cette figure en Israël, mais c'est la prétention de cet empire de Édom de s'opposer à l'Israël de la réalité au niveau de la quatrième instance qui est la plus approximative apparemment, c'est les sabots extérieurs du Hazir. Et vous savez d'ailleurs que quand les légions romaines sont entrées à Jérusalem, eh bien c'était l'insigne du sanglier qu'il y avait sur leur bannière. Et c'est resté dans la mémoire juive. Hein? Vous savez cela, que le drapeau, enfin les bannières, je ne sais plus comment on dit, des légionnaires, des étendards, des légionnaires romains, avaient comme par hasard, c'était pas le coq gaulois, mais c'était le chazir romain qui avait comme symbole. Je vous signale cela parce que vous savez bien évidemment que du point de vue des lois de la cacheroute au niveau de la halakha, le chazir n'est pas cachère, comme le gamal n'est pas cachère, comme les autres animaux qui ne sont pas cachères, du point de vue des règles générales de la cacheroute. Il n'y a pas de cas particulier du porc ou du pas-porc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans la sensibilité populaire juive, il y a un cas particulier. Il y a une sensibilité par le fait que le porc était le symbole des Romains lorsqu'ils ont conquis Jérusalem. Mais du point de vue halakhique strict, eh bien, cette viande n'est pas cachère, comme le chameau n'est pas cachère. Je ne voudrais pas qu'on utilise au niveau de halakha ces explications-là. Si quelqu'un ne mange pas du porc parce qu'il a une répulsion psychique pour le porc, et non pas pour les raisons que la halakha donne, ça fait rien. C'est pas grave. Mitor shel olishma balishma. Au moins, il ne mange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce n'est pas la vraie raison. Ce n'est pas parce que nous avons une répulsion, parce que c'est une viande sale ou tout ce que vous voudrez. Du point de vue de la halakha, ce n'est pas ça la raison. C'est le fait que c'est un animal qui ne rumine pas, et bien qu'il ait les sabots apparemment fendus. Mais il y a, et c'est vrai, dans la sensibilité familiale, je dis, une répulsion psychique, mais qui n'a rien à voir avec la cacheroute, qui a à voir avec l'histoire. C'est que c'était le symbole des légions romaines dans la destruction de Jérusalem.
Et, oui. D'ailleurs, pour ceux qui ont assisté au colloque des intellectuels, la leçon de M. Levinas, vous vous souvenez aussi qu'il finalement parlait du problème des quatre empires dans le texte de Yoma qu'il avait choisi. Il a fait allusion à ce midrash du Khazir en parlant de Edom. N'est-ce pas, ça rejoint tout à fait, et ça peut éclaircir ceux qui ont assisté au.
Il a cette leçon. Bernard, en expliquant justement que il ne s'agit pas de secouer la poussière de Rome. Il a montré que
ce n'est pas si facile que ça, et que du point de vue de
Rome et de la Perse, par exemple, quand on est juif, ça passe par Rome.
Il a dit que l'histoire se passe actuellement en Edom, c'est ça qu'il a montré.
Et le Midrash dit que le Midrash dit que le Mashiach est assis avec les mendiants de Rome. Vous connaissez ce
il a montré que l'ambiguïté des hommes, c'est comme le porc. Rome, c'est le droit, et c'est celui qui viole le droit qu'il a lui-même instauré. Et d'ailleurs, il a cité, en fait, la Gemara le dit explicitement également. C'était ça que M. Levinas a essayé de mettre en évidence. Que Rome a la prétention d'universalité parce que Rome a fondé le droit, mais c'est Rome en même temps qui viole le droit qu'il a fondé. Et que donc l'histoire se passant à travers Edom, se passe à travers une structure qui semble une structure du droit.
Dans tous les cas, je voulais citer cela pour situer, si vous voulez, que le problème du quatrième empire, inévitablement, nous le retrouverons donc à propos de Mité Midrash, puisque je me propose de choisir l'opposition d'enseignement des Midrashim sur la naissance de Moïse, dont on aurait pu faire, si nous étions des Goïm, nous en aurions fait un homme Dieu. Alors que la pensée du mythe va s'introduire dans la prétention de Edom contre Israël, et elle est d'origine grecque, des mythes fondateurs des religions du Sauveur. Ceci, nous le verrons dimanche après-midi. Je voulais simplement en profiter pour signaler que la prétention à être le Adam va être la plus grave au quatrième niveau, au niveau de Edom. Oui, j'en arrive au premier point. Le premier point, c'est le problème des traductions. Je voudrais vous donner une référence que nous allons étudier avec le commentaire de Rashi. C'est le cinquième verset du chapitre 1 de Devarim. Vous savez que le livre du Deutéronome, le livre de Devarim, récapitule les quatre premiers livres de la Torah, surtout du point de vue de la formulation des mitzvot. Toute la partie historique depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte n'est pas rappelée sinon en quelques versets très rapides, mais c'est surtout la récapitulation de la Torah antérieure en tant que mitzvot. Et là, il y a le verset suivant. Be'ever ha-Yarden, en deçà du Jourdain, Be'eretz Moab, dans le pays de Moab, Hoil Moshe, Be'er et Torah azot lemor. Moïse a commencé à expliquer cette Torah en disant. Et puis, sur ce verset, Moïse a commencé à expliquer « Roïl, Moshe, Be'er ». Be'er, c'est la racine Neva'er que vous connaissez. Be'er. Bon. Eh bien, Rashi dit ceci en citant le Midrash « Be'shivim lachon » dans les 70 langues. Ça veut dire que quand Moïse a expliqué, il l'a expliqué, bien sûr, en hébreu pour les Hébreux, et en même temps il l'a expliqué dans les langues des nations, à l'échelle de l'universel. Ça veut dire donc, et c'est important, que d'un certain point de vue, selon ce midrash, il y a une lecture possible, une parole possible de la Torah dite en langue des nations. Mais ce que je voudrais éclairer, et très rapidement, c'est dans quel sens? Dans un sens. Le fait que l'hébreu, connaissant aussi la langue X ou Y, l'hébreu va dire dans cette langue ce qu'il sait en hébreu, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, la difficulté de la traduction, c'est lorsque un homme d'une langue étrangère, grec, latin, tout ce que vous voudrez, va projeter sa lecture grecque, par exemple, dans ce cas, sur le texte hébreu, et non pas l'inverse. Que l'hébreu, pensant l'hébreu, va dire dans la langue étrangère qu'il connaît aussi. Là, c'est la Torah parlée dans telle langue, autre que l'hébreu, et non pas l'inverse. Là, nous saisissons le fond du problème. C'est-à-dire, si c'est un grec qui traduit la Torah en grec, alors là, c'est une catastrophe. Si c'est un hébreu qui va dire la Torah en grec, alors là, c'est différent, c'est l'enseignement de Moïse. Est-ce que c'est suffisamment clair?
C'est ce que Mara l'expliquait dans
ce... Oui, c'est ce que je voulais donc mettre en évidence. On a autorisé à traduire la Torah en grec, mais qui va traduire la Torah en grec? Le Sanhédrin. Et c'est pourquoi il y avait 70, qui étaient 72, traducteurs pour l'aventure des septembre. Mais à partir du moment où c'est effectivement Moïse qui parle en grec, alors c'est en grec qu'il peut parler. Le cas particulier, c'est même en grec qu'il peut parler. Le cas particulier, c'est cette référence que nous avions, que c'est en yavanite par excellence, que c'est en grec par excellence, que c'est le plus dissible, si j'ose dire, parce que c'est la langue de la beauté du monde, parce que c'est... Et malheureusement, les traductions que nous avons aujourd'hui, si vous voulez, le phénomène de traduction que nous avons aujourd'hui, lorsqu'on parle dans une autre langue que l'hébreu de la Torah, je dis bien, je ne parle pas de l'hébreu de l'Ulpan, je ne parle pas de l'hébreu au niveau langage de communication des consciences, mais l'hébreu dans sa vérité propre, l'hébreu comme langue d'expression d'une vérité dite en hébreu. Je parle du Mikra, du Lashon HaKodesh. Okay? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un phénomène exactement inverse, qui est grave en lui-même, c'est-à-dire qu'on projette sur la citation hébraïque la mentalité de la langue dont on se sert et non pas l'inverse. Je veux dire que c'est là qu'est la difficulté, c'est là qu'est le problème. Et en fait, pour être un peu plus complet, si vous voulez, du point de vue de cette halakha, à l'origine, vous trouvez toutes ces références dans le chapitre de la Maseret Shabbat de Kol Kitvei HaKodesh. A priori, on a interdit de traduire la Torah en toute langue que ce soit. En fin de compte, on a autorisé pour le grec. Et puis on voit qu'avec le temps, on autorise de plus en plus. Et au fond, j'ai l'impression, n'ayant pas le temps de voir le détail de l'analyse de la halakha dans ce chapitre, que c'est par une espèce de tolérance de plus en plus grande, parce qu'on ne peut plus faire autrement. Et alors, aujourd'hui, ce n'est, du point de vue de la halakha strictement, ce n'est pas interdit de traduire dans une autre langue, mais on sent que le principe de la loi était à l'origine d'interdire complètement. Je veux dire qu'il y a un phénomène de tolérance, et dans le sens un peu, à la limite, un peu malgré tout négatif de ce terme de tolérance. Je vais vous donner un exemple très très, très simple. On se sert de Bible traduite en français. Eh bien, du point de vue de l'esprit de la halakha stricte, c'est un livre faux, et qu'on n'a pas le droit de respecter, à qui on n'a pas le droit de donner le respect que l'on doit cultiver à Kodé, du point de vue de la halakha minkara. Mais, étant donné qu'il est là, que des raisons historiques ont fait que la Bible a été traduite en français. Alors on interdit de porter atteinte au respect de la traduction pour ne pas que ça risque d'atteindre le respect du texte original. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Mais la Gemara raconte que lorsqu'on a porté à Rabbi Tarfon un livre traduit, un livre de Torah traduit, le jeter au feu. Et la Gemara dit, en parlant de ses sfarim, « Hen ve askarotehen » les livres eux-mêmes et les noms de Dieu écrits dans ces livres-là. Il y avait, c'était même des livres écrits en langage hébraïque. C'est-à-dire, c'était la Bible des hérétiques, la Bible des Sadducéens, la Bible des Esséniens, etc. Et où le nom de Dieu est écrit de la même manière que pour les Juifs orthodoxes. Et cependant, il disait qu'il fallait jeter cela au feu. Vous voyez que nous sommes loin un peu de ce temps-là. On ne sait rien. Le problème est le suivant, c'est que pour ne pas risquer que il y a un manque de kavod pour la Bible originale, alors on respecte aussi les traductions. Mais dans le principe, elles sont considérées comme étant fausses. Je pense que c'était suffisamment clair sur, ce point. Alors, lorsque nous disons donc la Bible traduite en grec, il s'agit de savoir qui a traduit. Si c'est véritablement Moshe Rabbeinu qui explique dans une autre langue, ou si c'est un homme d'une autre langue qui, de l'extérieur, a projeté sa mentalité sur le texte originel et en cela se l'est approprié au titre de l'humanisme considéré. Donc vous voyez que c'est un problème extrêmement, extrêmement grave. Ceux qui suivent nos études savent très bien à quel point, personnellement, j'ai toujours l'occasion de citer ma propre expérience que tous ces livres traduits en français sont absolument inutilisables pour une étude véritablement sérieuse. Quelle ? Attends, explique bien ça, je ne sais pas très bien.
Je pose les deux points qui sont à interroger.
Ah oui.
Là, tu pourrais répondre. Oui.
C'est un peu le sens de ce que j'ai cité dans ce Rashi du verset 5 du Deutéronome. Je veux dire, là il y a le premier point, c'est que le verset a dit Veishkon Baoleshem. Et la beauté de Japhet résidera dans les temples de Shem. Ça veut dire qu'il a une part, une participation. La vraie question est pourquoi précisément cette langue-là et pas une autre ? Je reviens. Ça touche à la deuxième question, pourquoi la langue et pas la pensée, mais je pense que hier, Michel a dû vous citer un enseignement qui signifie que lorsque, effectivement, c'est la sainteté de l'hébreu qui est exprimée en grec, la sainteté de l'hébreu exprimée en grec, alors là c'est possible. Mais si c'est l'inverse, si c'est la mentalité du grec qui est introduite dans la sainteté d'Israël, c'est ça la catastrophe et l'obscurité. Or, il veut dire, c'est qu'on sent dans la discussion talmudique de ce chapitre de Shabbat que je vous ai dicté, que les Tanaïm avaient peur de cette éventualité, que si on autorise à traduire en grec ou dans une autre langue, finalement, c'est la deuxième éventualité catastrophique qui arriverait. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire. Je le dis souvent, je le répète encore une fois, ce livre dont il est parlé, la Torah, dit ce que les lecteurs lisent. J'ai cité ce point hier. Nous ne disons pas les écritures ou l'écriture, nous disons le mikra, la lecture. C'est ce que le lecteur lit qui est finalement entendu. Or, si ce lecteur, c'est Moïse, alors c'est la Torah. Moïse, le peuple hébreu, alors c'est la Torah. Mais si c'est une autre identité culturelle, il en résume un autre livre. Là, c'est pourquoi il me semble que il faut se rappeler de cette institution du Meturgeman. L'esprit de ce midrash vient déjà et relié à la dispersion. C'est-à-dire, à partir du moment où la communauté juive a été dispersée, sa langue culturelle est devenue la langue de la cité où elle vivait. Je veux dire, c'est l'inverse, c'est la langue de la cité où elle vivait qui est devenue sa langue culturelle. Et par conséquent, elle ne pouvait, le plus grand nombre ne pouvait avoir accès à l'enseignement de la Torah qu'à travers cette langue de traduction. Or, il y avait l'institution suivante, l'institution du Metorgeman. Je crois que le terme qui restait dans le vocabulaire théologique, c'est le paraclète, qui est le mot grec pour dire traducteur. Certains d'entre vous ont peut-être connu des juifs qui s'appellent Torgeman. Ken, Torgeman, c'est ces familles qui étaient des interprètes. Metorgeman, c'est devenu Torgeman en judéo-arabe. Mais le mot est araméen. Eh bien, le Chazan, le Shaler Tzibur, disait la Torah en hébreu à voix basse. Le Metorgeman la disait en même temps à voix haute pour que le peuple entende dans la langue qu'il comprenait. Et c'était vrai aussi pour l'enseignement, pas seulement pour la lecture, la récitation de la Torah, mais pour l'enseignement. Le Darshan faisait sa drasha en hébreu. Et alors que personne ne comprenait l'hébreu dans l'assemblée. Et le Metorgeman lui traduisait en simultané dans la langue qui était comprise par l'assemblée. Et malheureusement, cette institution a disparu. Mais dans tous les cas, aujourd'hui c'est le Darshan qui parle français, si vous voulez. Mais dans tous les cas, qui était ce Metorgeman? C'était quelqu'un qui était capable, à la manière de Moïse, pensant l'hébreu qu'il entend du Hacham, le dire dans la langue des 70 langues considérées. Vous voyez quel est le problème.
Moi, je l'aurais un peu rattaché à ce que dit là dans le Mamar Dalet, « Yamidvarim shel nevim lamadnu ki yesharim d'archei Hashem » C'est-à-dire qu'il y a « Houbam ou foshini kashlubam » Quand c'est un juif qui traduit la Torah, alors il va dans le droit chemin. Quand c'est un katadrasha, un non-juif qui traduit, il cache.
Oui, en nuant ça un peu, en disant que il y a aussi le rachat chez les premiers-nés, ça s'appelle le rachat des premiers-nés. Mais je veux dire qu'il ne suffit pas qu'il soit juif d'origine, et il faut que son identité soit authentique par rapport à la langue du peuple juif. C'est-à-dire, si c'est un juif qui ne connaît pas l'hébreu de Moïse, eh bien, le résultat de sa traduction va être tout autant rachat que celle de...
Il ne sera pas traduit.
Oui, d'accord. Dans cette nuance, ce que je voulais éviter, c'est qu'on on entende de façon trop schématique une équation fausse que juif égale tzaddik et que non-juif égale rachat. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a aussi le rachat des premiers-nés. Les premiers-nés, c'est Beni Bechori Israël. Si tu voulais citer quelque chose.
Oui. Oui. Je voulais ajouter toujours pour cette différence entre langue grecque et français grec, qu'avec beaucoup d'humour, le Midrash nous montre qu'il arrive que la Torah s'exprime en grec.
Oui, c'est ça.
Et dans notre langue. Et en particulier, en rapport avec notre sujet d'hier, c'est-à-dire le Shor, il y a dans Bereshit, dans la Genèse, le chapitre 49, du verset 5 au 7, où on nous parle de Jacob qui bénit ses enfants avant de mourir, et en particulier il parle de Shimon et Lévi, et malheureusement Shimon et Lévi se sont mal conduits vis-à-vis de Joseph, parce qu'ils ont, comme dit le verset, Shimon de Lévi Achim, que les Chomos, Mecheros et Seyem, des instruments de violence sont Mecheros et Seyem, leur Mechera. C'est ce mot-là pour lequel je vais m'arrêter deux minutes. Pourquoi ils se sont mal conduits donc contre Joseph? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ikrou Shor, ils ont essayé de déraciner le Shor qui est Joseph. Et alors, le Midrash et Rashi le cite, dit, eh bien, qu'est-ce que c'est Mherosem? C'est un apax. Apax, c'est un mot grec que les universitaires emploient pour dire un mot chez Ein lo Dimion, chez Ein lo Arba Torah, un mot qui ne se retrouve qu'une fois dans tout le Tanakh. Et alors, Rashi dit, eh bien, Mecheroseem, c'est un mot grec. Le sens, de tout le monde est d'accord pour dire, les instruments de leur violence, n'est-ce pas, leurs armes, qui ont un instrument de leur violence pour déraciner le Shor, c'était pas Mecheroseem. Eh bien, Rashi dit, pourquoi Mecheroseem? Parce qu'en grec, Machaira, c'est une arme. Et alors la Gemara dit, avec beaucoup d'humour, voyez, Jacob aussi parle grec, la Torah parle grec, mais quand il s'agit d'une malédiction, de l'arme étrangère qui est utilisée pour attaquer Shor, le bœuf Joseph, eh bien, Jacob n'a pas peur d'utiliser un terme grec. Je crois que ça complète l'autre face de ce que disait Raphaël.
Ça l'introduit très exactement. Je ne sais pas si tu peux citer ce verset du 4 ans.
Non.
Bien, je vais quand même.
J'ai été pris par le temps hier, oui. J'ai eu du mal à finir.
Mais ça fait rien, nous avons le temps quand même de mettre au point tout cela. Je dois dire à quel point je le dis en préface à dimanche, je suis satisfait de ce que nous avons trouvé ensemble, une méthode qui finalement nous permet de voir suffisamment de textes et en même temps de principes. Bon, on reparlera des problèmes de méthode dimanche. Et pas seulement le grec, mais nous avons une camarade qui dit qu'il y a des mots de toutes les langues dans le langage de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire des mots de toutes les langues? Ça veut dire qu'il y a participation possible pour les catégories de toute langue, de toute langue de l'identité humaine dans la Torah. Je reprends le même thème que tout à l'heure. Au niveau du langage comme véhicule de l'être culturel et du fait culturel, c'est un phénomène très parallèle. L'identité de Adam émerge du dedans de Ha-Adam. Il est donc normal qu'il y ait quoi que ce soit dans les véhicules sémantiques du Ha-Adam qui soit dirigé, qui est un visage dirigé, corollaire, convergent avec le Lashon HaKodesh de l'hébreu. Et c'est pourquoi la Gemara dit, il y a des mots de toutes langues, en particulier, le grand problème qui préoccupe la Gemara, c'est cette trace, ces restes d'araméens dans la Torah. Et en particulier, je ne parle pas, par exemple, où il y a des chapitres entiers dans Daniel, dans les derniers livres, qui sont intentionnellement en araméen. Mais dans la Torah même, quelques mots, comme par exemple, Yaga Saaduta de Laban, pour traduire le Galaël. Et là, il y a un Torah Tmima très important. Je vous donne la référence du verset dans la Torah. Et vous étudierez ce Torah Tmima par vous-même dans cette référence. C'est le verset 3 du chapitre 33 de Dvarim, de Zot HaBeracha. Le verset dit ceci. Vayoma, Hashem Misinai Ba. Hachem est venu du Sinaï, au Zarach Miseir Lamo. Et brille, Zarach, ça veut dire illumine, à partir de Seir. Seir, nous savons, c'est Edom. Au Fia Mehar Paran, il apparaît de la montagne de Paran. Paran, nous savons, c'est Ishmael. Veata Meribevot Kodesh. Et il vient, Ata, c'est un mot araméen qui est là.
Voilà.
Et c'est le verbe ato qui signifie venir. Ato, venir, veata, et il vient, que je me trompe pas, hein, c'est bien, oui. Mais ribebot kodesh, des myriades de la sainteté. Le Torah Tmima dit essentiellement deux choses. D'abord sur l'expression de la fin, mais ribebot kodesh. Il y a des myriades d'expressions de la sainteté possible. Ça, c'est les nations en général. Et ça s'est récapitulé dans la langue araméenne. C'est pourquoi ici il y a un mot araméen pour dire à la place de ba, bo, ato, venir. Et il y a donc, nous dit deuxièmement, le Torah Tmima, quatre langues qui peuvent être véhicules de la traduction de la Torah par le fait que, ici nous avons une difficulté avec le grec qui n'apparaît pas, mais nous allons voir où il réapparaît, par le fait que ce sont les langues de la famille d'Abraham. Les langues de la famille d'Abraham, c'est premièrement l'araméen. D'où sort Abraham? Abraham était araméen, Abraham, c'est l'hébreu. Abraham était hébreu, du point de vue de son identité profonde, mais c'était un hébreu s'exprimant en araméen. Abraham, la Gemara dans Brachot dit, il était d'abord Ab, principe, père de Aram. Ab, Aram. Ve ulbasof na'asa Ab, la'olam kulo, sheneema, Ab, hamon goyim. Et Abraham, lui, émerge, sort de cette identité araméenne dans laquelle nous retombons si nous perdons le Lashon HaKodesh. Et